Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ADN Stories, le podcast de celles et ceux qui font ADN, l'agence des négociateurs. Derrière chaque négociation, il y a des femmes, des hommes, des failles et des histoires. Une subtile alchimie de préparation, d'intuition, d'expérience et de capacité à se mobiliser pour faire changer le cours de l'histoire. Grâce à la générosité des invités, vous découvrirez les coulisses de ce métier, les trajectoires uniques des personnalités hors du commun, profondément humaines et optimistes. Ils nous partagent sans filtre leurs récits, leurs émotions et ce qui les anime encore et toujours pour repartir et négocier. Certaines vocations naissent très tôt et c'est vraiment un rêve de petit garçon qui pousse Stéphane Charlot, Kato de son prénom japonais, à intégrer la police nationale à l'aube de sa vingtaine. Si c'est le goût du terrain qui l'entraîne dans les services de l'ABAC, du RAID et de l'antiterrorisme, c'est bien le goût des autres qui le porte vers des postes d'encadrement de ces unités très spéciales. Dans ce nouvel épisode, Kato nous raconte sa trajectoire, sa vision de l'équipe, ce qu'on apprend dans ces métiers de l'ombre, l'envie d'en être qui vous colle à la peau au fil des missions et ce qu'il partage aujourd'hui avec celles et ceux qui l'accompagnent en entreprise. Bonne écoute. Bonjour Kato.
Bonjour.
Alors on est ravis de te recevoir aujourd'hui dans un nouvel épisode ADN Stories, le podcast de celles et ceux qui font ADN. Avant qu'on démarre et puis qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien, pour ceux qui ne te connaissent pas encore ou qui te connaissent très peu, nous raconter un petit peu ton parcours, d'où tu viens, les expériences que tu as pu avoir et puis ce que tu fais aujourd'hui, s'il te plaît?
Alors, je vais essayer d'être un peu synthétique, mais donc mon parcours, tout simplement, je suis un bébé, un enfant gâté de la police nationale. Donc, je n'ai pas fait d'études, hein. Je suis rentré dans la police en tant que gardien de la paix, juste après avoir passé mon bac et fait mon service militaire. Et ça date maintenant, puisqu'on était autour des années 90. Et ensuite, très rapidement, j'ai été gâté par cette institution, puisque j'ai exercé en BAC, donc en banlieue, dans une banlieue sensible dans laquelle j'ai grandi.
Et la BAC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'acronyme de...
De Brigade Anticriminalité.
D'accord.
Donc, ce sont des unités qu'on appelle de voie publique et qui répondent à toutes les sollicitations sur des agressions, des cambriolages, des vols à main armée. En gros, c'était lorsque j'étais petit, c'était l'image qu'on avait lorsqu'on regardait la série Starsky Hutch.
D'accord.
Ça parlera aux plus anciens.
Donc très terrain, très dans la réalité concrète.
Exactement, très terrain. On chassait le délinquant, comme on disait dans le jargon à l'époque. Et puis, je caressais le rêve d'intégrer des groupes d'intervention, mais je pensais à ce moment-là que c'était un peu inaccessible, parce que dans ces années-là, on entendait parler de ces unités, mais il y avait très peu de documentaires. Il y avait beaucoup d'inconnus. Alors, je pratiquais beaucoup de sports, des sports de combat en particulier, mais j'étais assez sportif. Et puis, donc j'ai eu la chance de passer les sélections quand j'avais 24 ans, et ça s'est bien passé. Donc, j'ai intégré le GIPN à Nice, donc pendant plusieurs années. Et c'était une très belle période de ma carrière. Voilà, donc beaucoup de missions, beaucoup d'engagements.
Et ça, intégrer des unités d'intervention, c'est une vocation? C'est quelque chose que tu avais déjà en toi quand tu étais petit? Ou c'était vraiment le rêve du super policier, super héros? Comment ça a né cette envie-là?
Alors, je pense, pour avoir eu une maman japonaise, et en plus hôtesse de l'air, donc je voyageais beaucoup et j'allais souvent au Japon, je pense que j'ai grandi dans un environnement baigné par les films et les séries de samouraïs. Et donc avec cette envie un peu de sauver la veuve et l'orphelin. Alors quand on met en perspective les histoires de samouraïs, de ninjas, de sports de combat et de vouloir sauver les gens, quand on mélange tout ça dans un shaker, assez rapidement, ça fait une tenue qui ressemble un peu à celle des groupes d'intervention.
D'accord.
Donc ça a débuté comme ça, je pense.
Et donc policier, brigade anticriminalité, donc très terrain, sélection pour les unités d'élite, donc...
Alors, on va plutôt parler d'unité spécialisée.
D'unité spécialisée, merci, voilà. C'est important, les mots ont un sens. Unité spécialisée et GIPN. GIPN, du coup, si tu veux bien nous raconter.
Alors,
ce que c'est.
Pour groupe d'intervention de la police nationale, donc c'était des unités décentralisées qui faisaient les mêmes missions que le RAID. D'ailleurs, aujourd'hui, les GIPN ont été totalement absorbés par le RAID. Et on parle d'échelon central du RAID.
D'accord.
À Bièvre et d'antennes décentralisées, donc en province et dans les territoires. Alors j'ai eu peine pendant quelques années, et puis ensuite, mes cadres ont considéré qu'il pouvait être intéressant de m'envoyer à l'école des officiers. Mmh. Donc j'ai passé les concours en interne. Mmh. En sortie d'école d'officier, j'ai exercé pendant 2 ans en tant que lieutenant dans une compagnie républicaine de sécurité, donc à la CRS numéro 8 à Bièvre, qui est une CRS qui est assez emblématique, puisque aujourd'hui c'est notamment une CRS spécialisée dans les violences urbaines très dégradées. On parle de force d'action, d'action rapide, en fait. C'est une CRS qui est projetée sur des émeutes ou des incidents graves. Et donc, j'ai fait ça pendant 2 ans avant de repasser les tests et d'intégrer le RAID à la section d'intervention.
D'accord. Oui, il y a plusieurs... c'est un grand service, j'imagine, le RAID, avec plein de spécialités.
Oui, tout à fait. Donc, le RAID, c'est en gros, ce sont des groupes d'intervention et qui sont épaulés par plusieurs services, une brigade canine, des négociateurs... des techniciens, des médecins, donc il y a beaucoup de services qui aident la section d'intervention à faire son travail, et donc ce qui nécessite d'ailleurs une belle cohésion transverse. Et aujourd'hui on a notamment dans le secteur privé quelques anciens négociateurs du RAID ou du GIGN, mais par chance on n'a pas de manager, l'ancien manager du RAID dans le privé, voilà. Donc j'attends impatiemment les prochains qui vont
les collègues qui vont arriver. Peut-être. Et alors après cette expérience au RAID, comment tu as continué ton parcours ?
Alors du RAID, je suis passé à la brigade d'intervention, donc à la BI, qui est une unité un peu plus méconnue. Et j'ai eu la chance de manager une bonne quarantaine d'opérateurs, puisque cette unité, eh bien, elle devait monter en compétences aux côtés de la BRI pour former la brigade anticommando. Et donc ça, eh bien, ça a eu lieu un petit peu avant les événements de l'hypercachère. Mmh. Donc j'ai eu la chance, eh bien, de pouvoir avoir carte blanche par un commissaire divisionnaire qui est devenu maintenant un haut responsable de la préfecture de police, hein, que je vais nommer, qui s'appelle Alexis Marsan, pour lequel j'ai beaucoup de reconnaissance d'avoir laissé quasiment carte blanche pour faire monter en puissance cette brigade, pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. Donc j'ai fait ça pendant un peu plus de 4 ans. Mmh. Et puis ensuite, un virage à 180 degrés. Et là, j'ai répondu à une sollicitation d'un autre chef de service qui est devenu un très bon ami, dont je ne citerai pas le nom, puisqu'il a exercé dans le renseignement antiterroriste. Et donc j'ai intégré un groupe opérationnel au sein de la DRPP, donc un groupe qui était chargé de faire des planques, des filatures, des sonorisations, des balisages, du traitement et de la manipulation de sources. Donc encore un groupe très opérationnel, mais cette fois-ci dans le renseignement antiterroriste. Mmh.
À une époque, en plus, où j'imagine... Alors, le sujet est toujours important, mais là, on parlait de l'hypercachère, des événements qui se sont passés à Paris en 2015. Donc, j'imagine que dans ta carrière, c'est quand même des missions ou des dossiers qui sont assez marquants, vu le contexte national que pouvait vivre le pays à ce moment-là.
Alors, tout à fait. C'était une période, et c'est d'ailleurs encore une période très tendue pour les collègues opérationnels. C'était une période très particulière puisque, bien sûr, toute la nation était en effervescence et était bouleversée par les événements. Alors moi, j'ai eu la chance de connaître l'hypercachère pour avoir été tout simplement avec un commissaire que je vais citer, qui s'appelle Bastien Marnabé, qui est aussi un commissaire de terrain exceptionnel. Et on a mis en place le premier dispositif autour de l'hypercachère en ne comprenant pas encore tout à fait ce qui se passait. Et moi, à l'époque, je suis arrivé rapidement sur les lieux parce que j'étais sur le terrain. Mais je n'étais plus du tout en charge ni du RAID ni de la brigade intervention, donc je n'ai absolument pas donné l'assaut. Hein. Il ne s'agit pas de m'attribuer des guerres que je n'ai pas menées. Et j'ai vécu l'assaut de l'extérieur, hein, bien sûr, à proximité immédiate. Et ça a d'ailleurs été très éprouvant émotionnellement de ne pas être dans l'action alors que les copains y étaient. Voilà, ça a été très impactant. Ça, c'est pour la partie intervention pure. Et puis après, dans le renseignement, eh bien, on a été mis dans le bain tout de suite, puisque... Avec mon groupe, on a notamment travaillé sur une personne qui a fourni du matériel et de la logistique à Koulibaly. Mmh. Et ça a été une mission de plusieurs mois qui a abouti à une judiciarisation et une incarcération de cette personne-là. Donc c'est une vraie victoire dans le renseignement. Donc ça a été une très très belle période en termes d'implication et d'obtention de résultats plus que positifs.
Et alors après ces expériences-là, très terrain, très concrètes, tu parles beaucoup dans ce que tu dis, le groupe, l'équipe, donc j'imagine on y reviendra, une grande puissance comme ça du collectif, tu choisis là aussi de te réorienter après plusieurs années à l'antiterrorisme, et là qu'est-ce que tu choisis d'aller faire ?
Alors on arrive à un virage dans ma carrière pro et perso, tout simplement parce que on avait pour projet familial eh bien, de finir à Lyon, dans le bassin lyonnais. Mon épouse étant lyonnaise, et elle a tout simplement eu une belle promotion à Lyon. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai pas eu d'opportunité d'intégrer le RAID, puisque le RAID était pris par une personne que je connaissais. Et la DGSI était en surnuméraire au niveau des officiers. Donc soit eh bien, j'attendais patiemment l'ouverture d'un poste à Lyon, soit je répondais à des sollicitations de basculer dans le privé, parce que j'avais déjà ponctuellement eh bien, répondu à des dîners-conférences ou quelques entretiens avec des dirigeants lorsque j'étais encore en activité. Mmh. Et là, bah, j'ai fait tout simplement une rencontre qui a changé mon orientation professionnelle. C'est tout simplement la rencontre avec ADN, qui à ce moment-là eh bien, avait un besoin de développer les corollaires à la négociation. Puisque ADN Group, hein, comme tous nos auditeurs le savent, eh bien, le cœur de métier d'ADN est la négociation. Et je ne suis pas négociateur, mais pour autant, eh bien, j'avais, semble-t-il, certaines compétences sur la gestion du stress, l'intelligence émotionnelle, le leadership ou encore la gestion de crise, qui permettaient eh bien, de muscler considérablement l'offre d'ADN en développant eh bien, le corollaire, tous les corollaires à la négociation. Mmh.
Les thématiques connexes, exactement. Et donc finalement, de ce projet de vie, de ce projet familial de changer de zone géographique, ça devient une opportunité pour toi et tu te jettes à corps perdu. Alors c'est intéressant parce que tu es un pur produit de l'administration publique finalement, parce que je fais une petite aparté pour expliquer que quand tu dis bah, soit j'allais à Lyon et j'attendais un poste, parce que la fonction publique, ça fonctionne comme ça. J'imagine qu'il y a des systèmes de mutation, où quand son conjoint, sa compagne est muté, il y a toute une organisation qui se met en place. Ça, alors pour le monde du privé, c'est très nouveau. Donc si tu peux nous expliquer en 2 secondes comment ça se passe.
Alors en général, ça se passe comme dans toutes les institutions publiques. Hein. C'est-à-dire qu'on postule sur des postes, il y a un jeu aussi de manœuvre syndicale hein, auquel je n'ai jamais participé dans ma carrière, puisque je n'ai jamais pris un timbre syndical dans la police, pour des raisons qui me sont propres et que je ne partagerai pas. Mais voilà, donc soit je m'armais un petit peu de patience, et puis je pouvais aussi peut-être postuler sur des postes un peu moins convoités, puis peut-être dérouler et accorder beaucoup plus de temps à ma famille, comme certains font en province. Mm-hmm. Mais j'ai considéré que j'avais encore trop d'énergie pour dérouler, comme on dit dans le jargon.
Et puis, le goût du défi, peut-être aussi.
Exactement. Et puis, je pense que l'appétence à la prise de risque, c'est dans mon ADN, c'est le cas de le dire. Et cette curiosité aussi de voir un petit peu si les outils que j'avais développés dans un univers très particulier étaient transposables au privé. Et très rapidement, eh bien, ADN m'a offert l'opportunité d'avoir de jolis clients qui étaient en demande. Et comme les retours étaient positifs, et puis comme j'ai eu aussi un accompagnement bienveillant d'ADN, à savoir... on a la chance de faire ce qu'on appelle des fonds de salle et les différents experts d'ADN eh bien, ont pu aussi faire des fonds de salle sur mes débuts de formation ou de conférence. Et petit à petit, eh bien, mes produits se sont construits, consolidés. Et aujourd'hui, je prends encore énormément de plaisir à découvrir des environnements différents chaque jour.
Et alors, ça fait une transition toute naturelle. Justement, aujourd'hui, chez ADN, tu disais, quand je suis arrivée, l'idée, c'était de développer les produits connexes à la négociation, un peu les thématiques corollaires. Donc concrètement, quand on a un parcours comme ça, une trajectoire terrain, police, bac, RAID, qu'est-ce qu'on en vient apporter au monde feutré des entreprises du CAC 40, des PME et des start-up ?
Alors déjà, ce qu'on vient apporter... on vient apporter le fait que le facteur humain il fonctionne exactement de la même façon, que vous soyez médecin, chirurgien, trader, super trader ou industriel. Eh bien, lorsque vous traversez une situation d'incertitude, de tension, de risque, eh bien, il se passe des bouleversements plus ou moins importants, physiologiques, psychologiques, comportementaux. Et l'idée, c'est que grâce à un univers décalé, j'ai déjà la chance, à minima, et je dis bien à minima, de susciter la curiosité de mon auditoire. Parfois, on a la chance de susciter même l'admiration. Après, il ne faut pas décevoir. Mais au moins, on captive son auditoire. Et après, eh bien, le plus rapidement possible, il faut, avec beaucoup d'humilité, avoir une approche, en tout cas c'est la mienne, de partage. C'est-à-dire de dire, voilà, on a commis des erreurs, on a fait aussi de belles choses, et on va vous partager une caisse à outils, et vous viendrez, avec ces outils-là, eh bien, étoffer votre caisse à outils. Mmh. Et ma conviction, c'est que, tout ce qu'on a pu traverser, en tout cas tout ce que j'ai pu traverser avec mes équipes, hein, et parfois de façon dramatique, ça a beaucoup de sens que de le partager aujourd'hui avec le secteur privé pour que, j'espère en tout cas, ils ne commettent pas certaines erreurs qu'on a pu commettre, et puis qu'ils puissent aussi toucher du doigt et essayer de créer les relations humaines que j'ai pu connaître, à savoir une cohésion une cohésion comme jamais. Voilà, on peut, lorsqu'on est dans des environnements dégradés, développer des liens affectifs extraordinaires. Et je pense que ce n'est pas du seul précaré des unités spécialisées. Je pense qu'aujourd'hui, et je le découvre, on peut, dans une direction commerciale, avec un groupe de négociateurs, avec un groupe dans le secteur médical, eh bien on peut très bien arriver à certains moments de grâce où on est au cœur de situations complexes, chargées d'incertitudes, et pourtant on est hyper heureux et hyper heureux d'en être.
Voilà, un petit peu. Et qu'est-ce qui fait ce sel-là ? Aussi bien toi qui as connu, voilà, en plus tu nous disais, au sein du RED, tu étais vraiment sur l'unité de la colonne d'assaut, hein, j'emploie des mots, c'est pas trop mon univers, mais oui, corrige-moi si je me... La section d'intervention. Donc là, on peut, en plus, l'imaginaire collectif fonctionne à plein. On imagine, voilà, l'alerte, on s'habille, on est engagé, même si on imagine souvent très peu toute la préparation et la rigueur et la discipline que ça requiert. Et dans le monde de l'entreprise, qu'est-ce qui fait ce sel-là pour qu'on ait envie d'en être, comme tu dis ?
Alors, je pense que, comme dans tout groupe d'individus, déjà, ça part du haut. C'est-à-dire, il y a une strate qui est essentielle dans les groupes d'intervention, hein, c'est celle des cadres intermédiaires, hein, que ce soit officiers, majors, qui vont donner l'impulsion, qui vont non pas forcément être exemplaires, hein, parce que ce terme d'exemplarité, il a été souvent galvaudé, mais qui vont en tout cas impulser au quotidien des valeurs et qui vont aussi sanctionner parfois des comportements individualistes pour lisser les réussites au maximum et les lisser dans la réussite collective. Mmh. Ça, c'est essentiel. Et aujourd'hui, eh bien, dans le monde de l'entreprise, ce que peut récupérer le secteur privé de ces unités-là, eh bien, c'est déjà d'identifier tous les comportements qui dégradent la cohésion. Mmh. Et ça, encore aujourd'hui, je constate parfois dans certaines entités, certaines entreprises, certaines organisations, qu'on favorise volontairement ou involontairement l'individualisme. Et je pense que ça crée une vraie vulnérabilité pour gérer des situations complexes ou des situations de crise. Donc ça passe par un management, par le fait de muscler son management, ça passe aussi par le fait de se rappeler que bah, une crise, notamment, ça nous pousse à l'humilité, parce qu'on n'a pas de solution toute faite et on va devoir construire des solutions et parfois construire des solutions innovantes. Et pour cela, eh bien, il faut avoir un certain niveau d'intelligence émotionnelle.
Et alors ça c'est un sujet intéressant. Si je reviens, je fais des petits voyages dans le temps comme ça. Quand tu nous racontais, quand j'ai démarré à Brigade Antiterroriste, on s'est retrouvés sur l'hypercacher. Tu vois, quand on est comme ça sur un truc aussi nouveau, ou comme là tu nous dis, la gestion de crise, ça apprend l'humilité. Toi, qu'est-ce que tu en retires, tu vois, d'un épisode comme celui-là, dans ce que toi t'as vécu en tant que... Que personne sur le terrain, et que tu es capable aujourd'hui de décrypter un peu, sans doute que tu l'as processé et que tu es capable de le partager avec des apprentissages, tu vois, qu'est-ce qu'il en ressort ?
Alors, ce qu'il en ressort, c'est que si on espère être performant, et en particulier être performant lorsqu'il y a un enjeu important, la première des choses, c'est le travail et encore le travail. C'est-à-dire que dans les groupes d'intervention, ça passe bien évidemment par l'entraînement, la répétition des gestes, la répétition des tactiques, des techniques, c'est sûr. Mais ça passe aussi par le travail au quotidien pour maintenir des relations, maintenir une qualité de relation, une cohésion. Et ça, bizarrement, c'est pas toujours naturel. Donc ça, c'est un premier point.
Donc ça veut dire qu'au sein d'une unité spécialisée d'intervention, le soin apporté à la qualité des relations des membres de l'équipe, c'est quelque chose qui est... travailler volontairement, je ne dis pas insincère, hein, mais en tout cas qui est volontairement travaillé au quotidien, chaque semaine.
Alors effectivement, après, même dans des groupes d'intervention comme le RAID ou JPED ou d'autres, hein, la strate intermédiaire où les officiers ne sont pas tous égaux, moi en tout cas je faisais partie de ces officiers-là qui attachaient une importance essentielle au moment de cohésion, voilà, au repas de groupe, au fait de fêter... Eh bien, des opérations, au fait de partager un petit déjeuner après ce qu'on appelle dans le jargon un serrage à 6h du matin. Ça, c'est hyper important. Et c'est important aussi de prendre soin de ses collaborateurs, de prendre soin de ses opérateurs, nous dit dans le jargon, après une naissance ou lorsqu'il y a un déménagement, eh bien, on se précipite pour filer un coup de main. Et toutes ces petites choses qui ont l'air anodines, eh bien, les cadres doivent les surveiller comme le lait sur le feu parce qu'il y a des indications... très net, lorsqu'à un moment donné, les gens ne participent plus, ne viennent plus ou n'ont plus l'envie de se retrouver ensemble, bah c'est que la cohésion se dégrade. Et si la cohésion se dégrade, Ça peut potentiellement devenir dramatique en intervention et ça peut être très très compliqué après l'intervention, lorsque par exemple il y a une enquête judiciaire. Quand il y a une enquête judiciaire suite à une affaire très importante, eh bien, on est vraiment très content d'être bien soudés, de pouvoir compter les uns sur les autres aussi.
Et alors ça, si on le transpose au monde de l'entreprise, c'est étonnant parce que finalement, c'est des grands mots derrière plein de petites choses très concrètes. Prendre un petit déjeuner, poser des questions en écoutant sincèrement, être là quand il y a un événement, quel qu'il soit pour l'autre. Dans le monde de l'entreprise, surtout à l'heure d'aujourd'hui où, où il y a beaucoup de télétravail, où on a quand même, on vit des modes de travail qui sont très, très nouveaux, donc qui déséquilibrent un peu toutes ces forces. Qu'est-ce que toi t'observes et qu'est-ce que tu... Pas tu recommandes, mais en tout cas, tu vois, comment tu penses qu'il faudrait travailler ce lien-là entre les collaborateurs ?
Ce que j'observe déjà, il faut bien évidemment avoir l'humilité de se dire que ces notions de cohésion, sentiment d'appartenance et de lien vont être étroitement corrélées à la culture d'entreprise. Mmh. Alors évidemment, selon les secteurs d'activité, selon l'exposition des personnels, on n'aura peut-être pas les mêmes routines, mais en tout cas, moi, ce que je préconise, c'est qu'il faut tendre vers quoi ? Vers l'amélioration, encore une fois, de la relation. Et ça passe par le fait de célébrer des réussites. Ça passe par le fait aussi de se soutenir lorsqu'on a, entre guillemets, contre-performé. Mmh. Créer des moments où on permet aux collaborateurs de s'exprimer, d'évacuer leur peur, leur rancœur, leur tristesse parfois. Et plutôt que de les laisser repartir et de les laisser digérer ça comme ils peuvent individuellement. On ne doit pas oublier qu'on est des animaux de meute. On est des animaux de meute, plus ou moins évolués, mais en tout cas, on reste des animaux de meute. On est fait pour chasser en meute, pour fuir en meute, pour se battre en meute. Et je pense que pour l'être humain, il n'y a rien de pire que le vrai et profond sentiment d'isolement. Mmh. Donc, il faut casser ces phénomènes d'isolement. Et puis, encore une fois, célébrer les choses, fêter les choses, et puis prendre soin d'autres. Et dans la notion de prendre soin, hein, c'est pas une approche mièvre où dans le monde des oui, hein, prendre soin de l'autre, c'est quand l'autre il est dans le rouge, venir l'épauler avant de le juger, venir le soutenir. Lorsqu'une erreur est commise, eh bien, avoir pour objectif principal de compenser les effets produits par cette erreur et d'élever le niveau du groupe avant de vouloir systématiquement sanctionner. Mmh. Voilà, c'est plein de petites pratiques comme cela que je développe notamment sur les masterclass et les modules sur le leadership, pour justement semer quotidiennement les graines et bien de la cohésion qui, à l'instant T, nous sera indispensable, notamment dans l'adversité.
Et alors, pour illustrer ça, est-ce que tu aurais en tête, tu vois, un moment plutôt sur le terrain dans ce que tu as vécu toi, soit l'antiterrorisme, soit précédemment, où justement, toi, tu as fait l'objet de réconfort ou au contraire, tu as détecté des signaux, enfin, tu vois, quelque chose qui illustre un peu ce que tu es en train de nous partager là ?
Alors, je vais vous partager un événement qui n'a rien de très médiatique, on va dire, mais qui a été emblématique pour moi. C'est tout simplement une mutinerie lorsque j'étais au GIPN à Nice. On a été appelé en 2000 sur une mutinerie à Grasse où l'ensemble de l'établissement était aux mains des mutins. Et on a été appelé et saisi par le préfet pour pouvoir prendre, entre guillemets, d'assaut l'établissement et s'assurer que l'armement létal, donc les fusils de l'administration pénitentiaire, n'étaient pas à disposition des prisonniers. Et donc, le préfet a décidé d'envoyer un groupe d'intervention en primo-intervenant pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'armement létal à l'intérieur, pour ensuite ouvrir l'accès aux forces mobiles, type gendarme mobile ou CRS. Et à ce moment-là, eh bien, nous étions 13, et on est rentré dans la prison, suivi par un gardien qui avait pour consigne de nous enfermer derrière à l'intérieur, dans l'hypothèse où nous n'aurions pas le dessus. Et il y a eu un petit moment de grâce, comme ça, suspendu. On s'est retrouvé enfermé entre deux sas, et où on savait qu'on n'avait pas de renfort possible, et qu'on ne pouvait compter que les uns sur les autres. Et ce que j'ai ressenti à ce moment-là, au-delà du fait d'être grisé, c'était le fait d'avoir envie d'être nulle part ailleurs qu'avec ses collègues, ses frères d'armes. Et ça, on pourrait penser d'extérieur que c'est complètement stupide. En fait, c'est justement le fruit de sélection particulière, de formation particulière, de moments de partage particulier qui crée le fait qu'on a envie d'être nulle part ailleurs qu'avec ce groupe dans un environnement totalement dégradé et chargé, bien évidemment chargé d'incertitudes. Bon, pour la faire courte, ça s'est passé assez rapidement après avoir utilisé des munitions type gomme-cogne au fusil à pompe, et on a eu un peu d'opposition pendant quelques minutes et on a réussi à stabiliser la situation très rapidement avec une puissance d'impact assez importante. Donc ça reste aussi une belle réussite d'un point de vue opérationnel, mais le plus important à retenir, c'est ce moment dans le SAS où on est les 13 tous ensemble et on ne sait pas ce qui nous attend à l'intérieur, et pour autant on n'a qu'une envie, c'est d'en être tous ensemble.
Donc ça, c'est la puissance du lien entre les frères d'armes.
Exactement.
Et alors aujourd'hui, quand tu vas dans les entreprises, donc tu nous disais tout secteur d'activité, tout métier, donc tu as des gens issus de plein de parcours différents, de plein de trajectoires, est-ce qu'ils se retrouvent les gens à travers ces mots-là, à travers ces expériences-là, avec ce... est-ce que le décalage leur parle ? Qu'est-ce qu'ils en retiennent de ce que vous partagez ensemble ?
Alors le décalage, très souvent leur parle, mais souvent, parfois même ça les fait un peu rêver. Mais ce qui est important, c'est que très rapidement, ils se rendent compte qu'eux aussi ont connu, à certains moments de leur carrière, des moments de grâce comme ça, en termes de relations. Et encore une fois, c'est absolument pas la chasse gardée des unités spécialisées que d'avoir ce type de relations. Heureusement, dans beaucoup d'entreprises, il y a des moments de grâce comme ça. Et je ne surprendrai pas les auditeurs en leur disant que c'est ce que je vis, par exemple, avec ADN aujourd'hui. Avec ADN aujourd'hui, on a une task force. Hein. Certains clients nous appellent A-Team, vous reconnaîtrez un petit peu le clin d'œil. Et voilà, mais c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'un recrutement, d'intervenants, d'une façon de manager cette équipe, et Marwan là-dessus, il est exemplaire. Donc encore une fois, c'est pas l'apanage des unités spécialisées, et heureusement, avec les clients que j'ai la chance d'accompagner, certains me disent, voilà, à une certaine époque, ils ont connu ça, ou en ce moment, ils connaissent ça, et ils viennent se former pour que ça se poursuive le plus longtemps possible. Voilà, l'aventure humaine, elle peut être belle dans n'importe quel secteur d'activité, à partir du moment où on y trouve du sens, et justement, à partir du moment où on arrive à générer le plaisir de travailler ensemble. Et je pense que plaisir et travail, c'est absolument pas antinomique. On peut vraiment prendre du plaisir à travailler ensemble.
Et alors, justement, tu disais tout à l'heure, le travail... Demain, on parle au monde de la finance, on parle au monde du commerce, de la logistique. Comment chacun, à son niveau, peut se mettre sur des pistes de travail ? C'est quoi les leviers qu'on a chacun à notre portée ? Parce que là, on comprend la puissance du groupe. Alors, les unités d'intervention, on est en plus catalysé comme ça dans toute une... C'est le rouleau compresseur, en fait. C'est les institutions qui se mettent en route, etc. Tu vois, à titre individuel, qu'est-ce qu'on peut aller chercher en nous ? Comment on peut se remettre comme ça dans l'exigence, dans le mouvement ?
Alors en fait, à titre individuel et dans le secteur privé en particulier, eh bien l'idée, c'est déjà de maîtriser parfaitement son cœur de métier d'un point de vue technique. C'est le minimum qu'on puisse attendre de nous. Dans la finance, eh bien évidemment, ce serait maîtriser voilà, l'état du marché, en tout cas tout ce qui est d'ordre technique. La première chose, c'est le travail pour maîtriser... la technique. Hein. J'ai eu la chance d'accompagner une maison dans la haute joaillerie, la base de la base, avant de vouloir vendre des pièces d'exception à des clients très exigeants, bah, c'est de maîtriser parfaitement eh bien, tout l'historique des pièces, etc., de l'origine des pierres. Et ça, c'est un gros travail de préparation et j'ai pu le découvrir avec eux. Mais maintenant, ça ne suffit pas. Et si je reprenais encore cet exemple de la haute joaillerie, si vous imaginez un seul instant que vous allez réussir à vendre des pièces d'exception à des clients très exigeants uniquement parce que vous connaissez les données techniques, ben non, ça ne suffira pas. Comment vous allez gérer la pression d'événements ? Comment vous allez gérer les comportements parfois particuliers de certains clients ? Eh bien là, ça demande d'être à son pic de forme mentalement au moment de l'action. Et là, ben, ça passe aussi par le fait de prendre soin de soi, d'avoir un minimum d'hygiène physique, de conditions physiques, j'allais dire, un minimum de routine de préparation mentale pour être capable de délivrer ce que l'on maîtrise à froid bah dans un environnement, encore une fois, plein d'enjeux et plein d'incertitudes. Donc l'idée, bah, ça, c'est de l'entraînement. Et certaines personnes le font de façon totalement intuitive et s'en sortent très bien. Et puis d'autres eh bien, se forment ou transposent leur expérience sportive, musicale, artistique dans leur métier. Et c'est aussi parfois avec de très très bons résultats.
Et alors, c'est quoi concrètement l'entraînement qu'on peut avoir pour soi-même ? Tu vois, qu'est-ce que toi, tu partages dans ces formations-là ?
Alors, ce que je partage, par exemple, un outil très simple, eh bien, c'est le fait de répéter mentalement une action. Demain, vous avez une présentation à faire devant tout le COMEX. Vous avez préparé 5 slides avec 3 idées majeures par slide. L'erreur serait d'apprendre par cœur l'enchaînement de ces idées. En pensant qu'on a fait le job, si vous ne passez pas par une phase où vous voyez, vous visualisez et vous voyez débuter votre présentation avec une intro un peu solide et que vous répétez mentalement les différentes étapes de cette présentation en visualisant l'auditoire et que vous ne travaillez pas un petit peu peut-être la fin de votre présentation, eh bien, il y aura très probablement un gros delta entre ce que vous avez appris par cœur, à savoir un enchaînement de bullet points, et ce que vous allez restituer avec non seulement le contenu, mais la bonne charge émotionnelle. Parce qu'on sait très bien, et tous les auditeurs le savent, que dans un message, les mots, le contenu, c'est bien, mais ça représenterait selon les études entre 15 et 20%. Le reste, hein, c'est du paraverbal, du non-verbal, en gros, c'est de l'émotion. Et donc, comment arriver à véhiculer la bonne charge émotionnelle dans un message? Eh bien, ça passe par la préparation et notamment la répétition mentale.
Et ça, toi, dans le contact que tu as avec les entreprises, hein, tous les jours, que ce soit les conférences, les formations, les accompagnements que tu peux faire, est-ce que tu as l'impression que les gens que tu rencontres ont conscience de ça, c'est-à-dire de prendre soin d'eux, de se mettre dans cette sorte de discipline un peu qui peut être exigeante, ou tu as l'impression que c'est très loin d'eux parce qu'il y a d'autres préoccupations actuelles?
Alors, bien souvent, les gens que j'ai en contact, avec lesquels je suis en contact, eh bien, en ont conscience. Par période font de très bonnes choses, mais ont du mal à avoir la discipline intellectuelle, la discipline émotionnelle, et bien d'être rigoureux et d'avoir des pratiques régulières de routine. Et puis parfois, il y a quand même un certain nombre de personnes que je croise qui, aspirées par la charge de travail et puis aussi la charge des responsabilités familiales, oublient effectivement de prendre soin d'elles. Et ces personnes-là, et bien, elles veulent prendre soin de leurs équipes, prendre soin de leur famille, mais ne s'écoutent pas assez et arrivent parfois à des points de rupture, et c'est le corps qui vient se rappeler à elles. Et dans ces moments-là, lorsque j'ai la chance eh bien, de les avoir en formation juste au moment où certains signes d'alerte s'allument, ben, je leur partage quelques contre-mesures de récupération, de préparation, et puis encore une fois, de création de liens privilégiés, hein, avec un groupe d'amis, un groupe associatif, un groupe de collègues, hein, de moments de partage. Et parfois, je leur partage au dernier moment et bien des outils qui leur permettent de sortir de l'autoroute qui les emmenait directement vers le burn-out et la dépression. Et dans ces moments-là, c'est une vraie victoire pour nous.
Et les petits signaux, alors, que toi, tu peux observer de ton poste privilégié d'observateur, tu peux nous en partager quelques-uns, parce que
bien
je pense
sûr,
que ça va intéresser.
Bien sûr, les signaux d'alerte assez classiques auxquels il faut être très vigilant, c'est d'abord en un, très souvent, la dégradation de notre rythme du sommeil. Il faut déjà bien connaître sa baseline, le chronotype de dormeur que nous sommes. Et lorsqu'on voit que notre sommeil se dégrade, alors il n'y a pas une urgence absolue, mais il faut impérativement mettre des contre-mesures, déjà comprendre pourquoi ça se dégrade. Voilà, est-ce que c'est lié à une gestion du stress un peu compliquée? Et parce que le corps est une formidable machine. Hein. Bien souvent, vous êtes stressé, vous ne dormez pas de façon optimale, mais ça a du sens. Hein. Si vous êtes stressé, c'est que vous avez la perception plus ou moins subjective qu'il y a peut-être un risque du danger. Et donc, votre corps fait en sorte que vous ne dormiez pas 12 heures d'affilée.
Ouais, c'est un état de qui-vive, en fait,
exactement,
c'est ça.
C'est
et donc, on se sent fatigué, on se sent, voilà. On traîne.
C'est un état d'hypervigilance, voilà. Donc il peut y avoir le sommeil, il peut y avoir une modification de votre comportement alimentaire dans un sens ou dans l'autre.
On mange aussi, trop, on mange plus du tout.
On devient boulimique, ouais. Ou alors, au contraire, on perd complètement son appétit. Il peut y avoir aussi, bien évidemment, un changement de votre comportement, de votre sociabilité. Soit vous êtes quelqu'un de plutôt taiseux et renfermé, d'un coup, vous êtes complètement hystérique et vous êtes en hypervigilance et puis en hyperactivité. Ou soit, à contrario, vous êtes quelqu'un d'habitude très jovial, plutôt festif, et là, vous devenez un peu taciturne. Et puis après, vous avez plein d'autres signaux, tels que évidemment le mal de dos. Hein. Vous êtes en hypervigilance, donc certains muscles sont tendus, ne se décontractent pas. Vous avez des contractions asymétriques dans le dos qui créent des tensions. Hein, on parle du mal de dos comme du mal du siècle. Et puis après, tout un tas de signaux qui peuvent être très personnels, des problèmes de digestion, des problèmes cutanés, etc. La liste est sans fin. L'idée étant eh bien, de bien se connaître pour savoir, un petit peu comme les voyants d'une voiture, eh bien, à quel moment ces signaux s'allument et l'urgence eh bien, qu'on a, non pas forcément à trouver une solution, mais en tout cas à mettre des stratégies en œuvre, des stratégies d'adaptation en place pour essayer de revenir à l'équilibre le plus vite possible.
Et en tout cas, quand je t'écoute, à me dire au moins de conscientiser. C'est-à-dire, là, je sens que ça fait 10 jours, ça ne va pas. Et déjà ça, finalement, c'est quelque chose qui nous permet de nous... Enfin, en tout cas, de faire un premier pas vers autre chose que cette situation. Ça, si je reviens sur... ces groupes-là d'intervention quand ils interviennent, doivent être au maximum de leur forme, finalement. Exactement. Travaille aussi sur ces leviers. Tu parlais tout à l'heure de la projection mentale. On a évoqué la récupération aussi. Tu vois, ça, c'est un truc qui est quotidien. Ce n'est pas un mythe, donc, de se dire que...
C'est absolument pas un mythe. Alors, le RAID a été la première unité de la police nationale à partager avec nos amis militaires les techniques d'optimisation du potentiel. Donc, on a eu la chance d'être formé à l'école interarmée des sports, hein, qui est une très, très belle école. Hein, je les salue. Hein, ce sont nos amis, nos cousins militaires, qui ont développé des process, des procédures de préparation mentale très robustes. Moi, j'ai eu la chance d'être formé chez eux, aux côtés de sous-mariniers, de forces spéciales, de pilotes. Et ça a été une expérience très enrichissante. Donc déjà, il y a la caisse à outils, hein, qui à l'époque s'appelait la caisse à outils top, technique d'optimisation du potentiel. Mais après, ça, encore une fois, ça ne suffit pas. Il y a aussi tout ce qui tourne autour de l'intelligence émotionnelle, de la relation qu'on a dans le groupe, puisque... Eh bien, d'avoir un groupe soudé, ça permet quelque chose de très simple. À partir du moment où vous appartenez à un groupe soudé, quand je dis un groupe, hein, ça peut être un noyau familial soudé, ça peut être un groupe d'amis soudé, un groupe de musique ou un groupe de collaborateurs, eh bien, vous augmentez les chances de pouvoir verbaliser les choses, tout simplement. Est-ce que le corps verbalise, il a tendance à moins le somatiser. Donc déjà, c'est une belle contre-mesure. Et puis ensuite, lorsque vous êtes en groupe, eh bien, ça modifie totalement la perception que vous avez, la perception de vos ressources, la perception des contraintes. Et ça, c'est quasiment la base en matière de gestion du stress, hein, ce déséquilibre d'une balance entre la perception de nos ressources et la perception de nos contraintes. Et là, la puissance du groupe, eh bien, c'est de modifier un petit peu la façon dont on peut percevoir le risque. Hein, lorsque le RAID, un groupe d'intervention, quel qu'il soit, part sur un forcené, voilà, un individu qui nous attend avec un fusil de chasse derrière une porte, le risque est le même, hein, pour n'importe quel individu, le risque de mourir, et pour autant... Notre perception du risque, elle est modifiée. Elle n'est pas altérée, elle est modifiée par le groupe. Donc ça, eh bien, pour moi, la puissance de la meute, hein, elle est vraiment phénoménale en matière de gestion du stress. Et c'est hyper important.
Et donc là, on parle beaucoup de gestion du stress. Dans ce que tu fais aujourd'hui, toi, pour le monde des entreprises, alors il y a ce module-là, tu parlais du leadership, gestion du stress, il y a d'autres sujets comme ça sur lesquels tu interviens pour accompagner les entreprises?
Oui, tout à fait. Là, en ce moment, on développe de plus en plus un module sur la gestion de crise. Mais il faut garder à l'esprit que tous ces modules-là, ils sont interdépendants. Il y a même des tuyages, puisqu'on ne peut pas parler de leadership sans parler de gestion du stress et de gestion des émotions. On ne peut pas parler de gestion du stress sans parler de leadership d'une certaine façon. Et on peut absolument pas parler de gestion de crise sans aborder les deux notions précédentes. Mais le module de gestion de crise, pardon, c'est un module qui est passionnant parce que aujourd'hui, évidemment, l'environnement est très particulier. Il y a des contraintes énormes, contraintes de matières premières, de sources d'énergie, de marchés très mouvants. Et donc, les entreprises ont besoin de se consolider et de se rassurer sur leur capacité à prendre collectivement de bonnes décisions. Et c'est un petit peu ce qu'on apporte. Eh bien, ces entités-là, hein, c'est d'identifier des vulnérabilités et d'essayer petit à petit eh bien, d'éliminer ces vulnérabilités pour faire en sorte eh bien, que ces groupes, hein, que ce soit un COMEX, un CODIR, une business unit, puissent prendre, alors j'aime bien partager cette phrase, puissent prendre des décisions éclairées dans l'obscurité.
Est-ce qu'il y a un épisode vraiment, tu vois, qui est hyper clair dans ton esprit et qui a été un temps très, très moteur dans la construction de ce que tu es aujourd'hui, de ce que tu es capable d'apporter aujourd'hui?
Je ne sais pas si on peut parler d'épisode. Lorsque je suis rentré au GIPN, j'étais, comme on dit dans le jargon des psys, réservé négatif. Tout simplement parce que d'un point de vue psy, j'étais un peu immature. J'avais vraiment l'envie d'en être. J'ai tout donné sur les sélections, mais les psychologues avaient un petit doute sur mon niveau de maturité. Et ils avaient bien raison, puisque j'avais 24 ans. Et en fait, lorsque j'ai intégré ce groupe, après avoir passé les premiers mois un peu probatoires, eh bien, j'ai connu une expérience extraordinaire qui est celle du partage. J'ai été parrainé par deux personnes, dont je dirais que les prénoms, François et Alex, qui m'ont vraiment accompagné, formé, mais pas d'un point de vue technique, formé d'un point de vue état d'esprit, engagement, sens, loyauté. Et j'ai vraiment eu la sensation de recevoir. Et plus tard, en tant qu'officier et en tant qu'instructeur dans des différentes thématiques, et puis aujourd'hui en tant que parfois formateur, consultant, conférencier, eh bien j'essaie de reproduire un petit peu ce schéma et de partage. Voilà, j'ai été encadré par des gens qui n'avaient pas envie de fanfaronner, j'ai été encadré par des gens qui disaient la vérité, j'ai pas été encadré par des mythomanes, j'ai été encadré par des gens qui avaient la volonté de me faire grandir en fait. Et aujourd'hui c'est ce que j'essaie de partager modestement avec les gens que j'accompagne.
Et alors ça, c'est une sorte de mentor finalement. qu'on a mis à tes côtés quand tu as démarré. Est-ce que c'est des pratiques, tu vois, au sein de ces unités, c'est-à-dire chaque nouvel entrant a un parrain et une marraine ou deux parrains et est accompagné comme ça?
Alors
c'est
effectivement, ça tient de la tradition du parrainage dans les groupes d'inter. C'est informel, c'est pas écrit dans les textes, mais c'est une pratique qui perdure. Et on a une grosse pression, moi j'ai été parrain après par la suite, quand on est parrain on a une grosse pression parce que on doit faire en sorte que son petit poulain il se transforme en opérateur efficace et avec un vrai sens des valeurs. Et puis quand on est parrainé, bah, son parrain, je pense qu'il restera toute sa vie son parrain. Et moi aujourd'hui, voilà, ces deux garçons là et Alex avec qui je travaille au quotidien et que j'ai récupéré maintenant dans la team ADN, ça reste un élément qui est moteur dans ma vie et quasiment toutes les grandes décisions de ma vie pro ou perso, je les partage avec eux.
Ouais, donc ça va au-delà de la relation de travail là dans ce que tu nous racontes là.
On arrive un peu à l'extrême de ce qu'on pourrait retrouver en termes de cohésion, mais effectivement ça va au-delà de la relation de travail. Mais encore une fois, j'ai aussi découvert dans certaines entreprises avec lesquelles j'ai travaillé des relations professionnelles qui sont devenues des relations amicales incroyables.
Oui, et là ce que tu nous dis, c'est ce que je trouve intéressant, assez fascinant, c'est que ça on peut le transposer n'importe où. Établir le fait qu'un parrain ou une marraine peut arriver, et quand tu nous disais c'est informel, ça veut dire que concrètement qu'est-ce qu'il fait le parrain? Il t'emmène boire une bière après une intervention pour raconter?
Comment ça se passe? Le parrain il t'aide sur tout l'informel, il t'aide en te partageant un petit peu des notions de posture adaptées ou inadaptées. Moi je vais vous dire quelque chose dont je ne suis pas très fier, hein, mais dans mes tout premiers mois où j'ai IPN, j'avais probablement envie de prendre un peu la lumière, et de temps en temps j'ai dû faire quelques sorties en voulant me mettre en avant, et là en utilisant soit la plaisanterie soit la remarque un peu plus sérieuse, j'ai été très vite recadré par ses parrains, et sous forme de taquinerie parfois, mais pour me montrer que c'était pas du tout, il n'y avait pas de place pour le fait de briller individuellement. Donc c'était lié à mon immaturité, j'ai dû faire une ou deux sorties comme ça. Et ça m'a servi immédiatement et j'étais vite, vite recadré. Ça, c'est pour le côté un peu recadrage. Et puis après, il y a le côté aussi d'être rassuré sur mon premier forcené avec échange de tirs. Et durant cette opération, on a même perdu un opérateur qui a été blessé à la cuisse. Et on a dû malheureusement faire usage de l'arme sur le forcené. Et bien, le François en question, avec lequel j'étais binommé, par la simple pression de sa main sur mon épaule, suffisait à me faire redescendre en niveau de tension pour que j'arrive à un niveau de mobilisation qui soit optimal pour pouvoir progresser dans ce pavillon-là. Donc voilà, c'est des choses qui tiennent encore une fois de l'informel, mais un subtil équilibre entre rassurer, faire grandir et recadrer si besoin le jeune lapin de 3 semaines que j'étais, quoi.
Ça veut dire que quand toi tu rentres dans ce pavillon-là, ton parrain, il sait où t'en es. Il te parle pas, vous vous parlez pas, mais il sait où t'en es pour te mettre la main sur l'épaule et te dire t'inquiète, ça va le faire, on va y arriver. Tu vois,
ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a même pas besoin de verbaliser. Mais sa présence seule, en tant qu'aîné, suffit à faire redescendre un niveau de pression. Et effectivement, il perçoit subtilement où j'en suis, et puis il l'anticipe aussi, hein, parce que en fait, toute personne câblée intellectuellement peut ressentir soit de la peur, soit une effervescence un peu trop prononcée avant de rentrer sur ses toutes premières opérations où il y a des échanges de tirs.
Et c'est sain, finalement, d'éprouver cette émotion-là, justement.
Le pire serait de ne rien éprouver.
Ah, exactement. Et alors, si tu te retournes, toi, sur ton parcours, donc très, très marqué, finalement, par des univers tout aussi fascinants et passionnants, le monde de l'intervention, l'antiterrorisme, le monde du privé aujourd'hui, est-ce qu'avec le recul, tu te dis, à un moment dans mon parcours, il m'a manqué ça, ou là, si j'avais eu ça, ça aurait été différent? Quel est le regard que toi, tu portes sur cette trajectoire?
Alors, le regard que je porte, déjà, le regard, c'est presque le regard d'un enfant. Encore aujourd'hui, je me dis, en regardant derrière, mais... comment j'ai pu accomplir tout cela. Si on m'avait dit à 15 ans que j'accomplirais tout ça, j'aurais jamais cru la personne qui m'aurait tenu ces propos. Donc déjà, c'est un premier regard, c'est un regard, j'allais dire, presque amusé de l'enchaînement eh bien, de toutes ces opportunités qui se sont créées et que j'ai saisies aussi. Donc ça, c'est un premier point.
Et pourquoi alors, à 15 ans, c'était quoi le regard que tu portais sur toi pour être aussi étonné là aujourd'hui?
À 15 ans, je pense que j'étais comme beaucoup d'adolescents, un garçon qui se cherchait. Moi, je voulais rentrer déjà dans la police à 15 ans, mais encore une fois, pour sauver la veuve et l'orphelin, et c'était plus un rêve d'enfant qu'une vocation bien, bien précise et structurée. Et donc, en regardant en arrière, il y a aussi ce constat que je fais encore aujourd'hui à ta question de quoi il t'a manqué. Et en fait, je me suis toujours dit qu'il m'a toujours manqué quelque chose. Et, alors, je ne sais pas quoi et je ne savais pas forcément quoi, mais j'ai toujours eu une soif d'apprendre, une soif de me nourrir des gens qui m'entouraient. Et aujourd'hui, plus que jamais, puisque évidemment, j'ai peu d'expérience dans le monde de l'entreprise. Et il y a un phénomène d'accélération d'expérience, parce que avec les très belles entreprises qui forment le carnet des clients d'ADN, eh bien l'expérience est vraiment accélérée. Mais aujourd'hui, j'ai toujours l'impression qu'il me manque quelque chose, et je pense que ça m'aide d'avoir cette sensation, parce que ça me pousse à la curiosité, ça me pousse au questionnement. Et je dis très souvent aux gens que je forme ou j'accompagne aujourd'hui, que en propos préliminaire de mes formations, de mes accompagnements, que je vais leur donner tout ce que j'ai, et ils se serviront, mais que je vais aussi, bien évidemment, puiser et m'inspirer et apprendre d'eux. Et ça correspond à une réalité. Donc, il me manque encore beaucoup, beaucoup de choses.
Dit le sage Cato, face à au long chemin de l'apprentissage.
Non, je pense que le risque, à mon avis, la contre-performance viendra le moment où, justement, je penserai que j'ai plus rien à glaner, j'ai plus rien à apprendre.
Oui, on sent que ça, c'est quelque chose de fort hein, chez toi, finalement. Rester ouvert, écouter, chercher à comprendre, capter l'autre, c'est ça hein, qui apporte du sens quand on écoute ton parcours et encore aujourd'hui, quand on voit la nature des missions que tu peux faire, c'est vraiment quelque chose qui t'anime.
Ce qui m'anime, encore une fois, je pense, la première chose qui m'anime, c'est le partage et puis la satisfaction d'avoir pu, à un moment ou à un autre, aider quelqu'un ou aider un groupe, une équipe, une entité, une entreprise à surmonter. Voilà, ça c'est vraiment ce qui m'anime.
Alors on approche de la fin, Cato. Si tu devais faire passer un message aux gens qui nous écoutent, alors sur les podcasts d'ADN, il y a beaucoup de jeunesse qui nous écoute. Il y a aussi beaucoup de personnes du monde de l'entreprise et de beaucoup, beaucoup de secteurs différents. Toi aujourd'hui, s'il y avait une idée, un message que tu aurais envie de leur partager là dans ce podcast, ce serait quoi?
Alors, je vais utiliser une image qui parlera à tout le monde, j'espère. J'ai vécu des pots de départ avec énormément d'émotions. J'ai vu des gros costauds, des gros rustiques verser de chaudes larmes sur des pots de départ. Et ces pots de départ, ils étaient en général révélateurs du fait d'avoir traversé, surmonté ensemble des moments difficiles. Et aujourd'hui, plus que jamais, on sait qu'on va affronter des moments complexes, des moments difficiles, peut-être professionnellement ou personnellement, mais par contre, tous ces moments-là vont créer des opportunités de vivre des choses ensemble et de découvrir des relations incroyables. Arrêtons, pour certains, d'avoir peur de l'avenir, d'avoir peur de l'incertitude et de se renfermer sur soi, de s'isoler. Au contraire, cultivez vos meutes, profitez d'elles, prenez soin d'elles et comme ça, vous allez traverser des moments difficiles, certes, vous perdrez des plumes parfois, mais ça va vous faire le cuir et vous profiterez, vous fêterez des choses ensemble. Vous fêterez le fait d'avoir surmonté les choses ensemble.
Vous célébrerez.
Voilà, exactement, célébrer les choses.
Merci Cato.
Merci Julie.
En replongeant dans les souvenirs de son parcours, les choix qui ont émaillé sa carrière et ce qui l'anime sincèrement, Cato nous montre combien l'impact de ceux qui nous entourent est fort et déterminant. Il nous fait aussi toucher du doigt que l'on peut être le petit dernier arrivé au sein de sa meute, celui que l'on parraine au sein du groupe, et qu'un jour viendra, notre responsabilité sera alors tout autre, puisque nous serons celle ou celui qui parraine, celle ou celui qui écoute et qui fait grandir. Merci Cato pour ce partage sans filtre et cette authenticité. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, ça nous aide beaucoup. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode d'ADN Stories le mois prochain, puisque désormais nous avons rendez-vous chaque mois. En attendant, portez-vous bien et retrouvez toute notre actualité sur www.adngroup.com.